On va aller se balader du côté du Pays Basque.
Effectivement, le Pays Basque est quand même à l'honneur, on va dire, cette édition, en tout cas dans nos invités. Et on va peut-être commencer par Jérémy, du domaine de la Roudée, bonjour.
Bonjour.
Et vous n'êtes pas seul, vous êtes aussi accompagné de Pauline, de la ferme Quiteria.
Bonjour.
Bonjour Pauline. Alors Jérémy, on vous avait déjà reçu l'an dernier, c'est votre combienième gastronomade?
Mon dixième.
Dixième, bah bravo, anniversaire, bon anniversaire.
Merci.
Et vous Pauline?
Première.
C'est votre première, votre baptême.
Ouais,
baptême déteste. Aux gastronomades et baptême en direct sur Attitude.
C'est Jérémy qui vous a donné envie de venir ou...
Tout à fait. La place était libre et il m'a proposé et j'ai trouvé sympa. Ça fait passer un week-end entre amis. Mm-hmm. Donc on joint l'utile à l'agréable.
Effectivement, vous avez l'habitude aussi d'aller représenter vos produits loin,
Pas tellement, pas sur les salons ni sur les marchés. On fait plutôt de la vente directe depuis notre ferme.
D'accord.
Donc c'est une première expérience très sympathique.
D'accord, et bien justement, parlons de vos produits respectifs, on peut commencer éventuellement par vous, Jérémy.
Oui, avec plaisir.
Alors du coup, le domaine La Roudée, attendez, je vais me connecter sur votre site, comme ça on pourra voir, on va aller directement à la boutique, on va entrer dans le vif du sujet.
Vous êtes situé à quel endroit au Pays Basque?
C'est donc, j'apporte une petite précision, c'est au Béarn, attention.
Ah oui, pardon, c'est moi qui ai fait l'erreur. Et bien sûr, oui, totalement, ben oui, c'est le Béarn.
Et quand on connaît la rivalité qu'il y a avec les Basques, attention,
oui, c'est vrai,
je pourrais claquer le micro et m'en aller de ce pas.
Exact, je suis désolé, mes excuses.
Non, voilà, c'est dans le Béarn, juste exact. À côté du Pays Basque, on produit du Jurançon à 35 km à l'ouest de Pau.
Parfait. Et vous?
Vous vous retrouvez pour la troisième mi-temps?
On se retrouve souvent pour la troisième mi-temps. En général, c'est...
Ça met tout le monde d'accord?
Les uns comme les autres, on est des bons vivants. Et oui. Après deux, trois parties de claque, on se retrouve autour d'un bon verre. Et ça y est, on est très amis après.
Exactement.
Je vois que vous avez 8 produits différents dans votre boutique. Avec, donc vous l'avez dit, des moelleux Jurançon. Et il y a aussi du vin blanc sec. Je vois qu'il y a du pétillant. Et même du vin rouge. C'est des produits que vous avez depuis longtemps?
C'est une exploitation familiale. L'historique est basé sur le Jurançon. Donc le Jurançon sec et le Jurançon moelleux, je suis la cinquième génération à en faire. Les perles du bonheur, le rosé, le rouge, c'est des nouveautés que j'ai installées il y a une dizaine d'années.
D'accord.
Voilà.
Et qui pareil trouvent leur place dans votre catalogue. Vous êtes donc basé, vous l'avez dit, dans le Béarn. Est-ce que vous avez l'habitude de parcourir la France entière pour représenter vos produits?
Non, pas vraiment. Il y a un seul endroit où je vais, c'est retrouver les Charentais. Ils sont bien bons vivants, ils sont accueillants, donc on est content de revenir d'une année sur l'autre.
Donc en général, l'approche de Noël, on est toujours content de faire nos courses et de prévoir un bon gros réveillon, comme on dit.
Ici, au Gastronomat, c'est l'occasion notamment d'assister à des démonstrations culinaires, de travailler avec les chefs. Vous avez des liens avec des restos peut-être de votre région ou de bien plus loin,
oui.
Ou avec des chefs pour justement travailler et mettre en valeur... vos produits.
Les Jurançon, oui, tout à fait. Oui, on a des restaurants, étoilés dans les Pyrénées-Atlantiques. On travaille essentiellement localement. C'est une exploitation familiale. On produit un peu plus de 20 000 bouteilles à l'année. On peut pas se permettre de vendre dans la France entière, mais localement, on a des bons restaurants qui travaillent avec nos produits.
Ouais. Et justement, sur le stand, vous êtes situé à quel stand aujourd'hui?
75.
75, voilà.
Comme ça, on peut pas nous louper. On est une lignée des producteurs du Béarn et du Pays Basque, entre du fromage, du foie gras, du piment, du gâteau basque.
Ouais, ils vous ont groupé. On a juste à faire l'allée comme ça et on a
le réveillon.
Fromage dessert.
Ouais, voilà. Ouais.
Et digestif.
Et un bon Jurançon, ça va très bien avec un bon fromage de Pyrénées.
Exactement. La transition est toute faite.
Et ouais.
Beaucoup de gens boivent du rouge sur du fromage. Essayez le blanc, vous verrez, vous serez pas déçu.
Avec le fromage de brebis, c'est délicieux.
Un problème d'intensité quand on a des rouges un peu trop présents en bouche et que ça masque un petit peu le côté aromatique des fromages, surtout de brebis qui sont un peu plus subtils que... Voilà, surtout quand on les fait en montagne.
Eh bien, ça tombe bien, ça permet de faire la transition chez vous, Pauline. Donc vous êtes situé pas très loin de chez Jérémy.
Voilà, à vol d'oiseaux et de grues en ce moment qui passent là sur nos vallées.
Ah, oui.
Alors moi, c'est un peu particulier, je suis béarnaise. On s'est connus avec Jérémy au lycée de Montardo, pour faire un petit peu la pub.
Allez-y.
Et puis, j'ai rencontré tout simplement un Basque. Voilà, donc suis maintenant située près de Saint-Jean-Pied-de-Port, sur la petite commune d'Aax-Alciette-Bascassan. Et puis nous élevons donc avec mon conjoint deux troupeaux, un de vaches et un de brebis. Et avec le lait de brebis, nous faisons des tomes de brebis, pas que, mais aussi des pâtes molles, des lactiques. Mais aujourd'hui, je suis venue essentiellement avec des tomes qui ont été fabriqués en estive, puisque nous sommes bergers, nous travaillons avec de l'herbe essentiellement. Le Pays Basque, le Béarn, c'est des ressources fourragères énormes en herbe, et donc dès lors qu'il y a de l'herbe présente dans la montagne, nos troupeaux transhume, on appelle ça partir à l'estive.
Ah, ça me rappelle les souvenirs d'enfance, effectivement. Hein.
Oui. Et alors, la petite particularité aussi de mon stand, c'est que je le partage avec quelqu'un qui m'est très cher, c'est ma sœur, frangine, qui tient le stand en ce moment, qui s'appelle Marie. Et elle est aussi bergère, mais en Béarn. Elle garde un troupeau de brebis de bergers béarnais en vallée d'Aspe, du côté de l'Esquin, et elle a réalisé aussi cet été des fromages d'estive. Donc nous sommes toutes les deux à vous présenter deux types de fromages d'estive sur notre stand.
Bon, d'accord. On va réussir à réunir les deux régions, ça va aller maintenant. On va réussir à réunir les deux coins. Et donc voilà, sur place, voilà, on peut goûter donc les différents produits. On peut repartir avec la tome entière si on veut. Il y a vraiment
tout. Tout à fait. On s'adapte.
Tout est ouvert.
Voilà.
Pauline, c'est qu'est-ce qui a été le déclic pour vous dire tiens, je vais consacrer ma vie aux brebis, au fromage et rester en pleine nature.
Le déclic, c'est pas.
C'est la continuité d'une ligne familiale ou
Non, pas du tout. Moi, je suis HCF, comme on appelle ça dans le jargon agricole, hors cadre familial.
Ah ouais.
Comme il y en a de plus en plus, que voilà, je n'ai pas de parents agriculteurs, mes grands-parents côté paternel l'étaient. Et voilà, ce qui m'a donné envie de découvrir ce milieu et de vivre, c'est plutôt le mode de vie à la campagne, cette attirance pour la qualité du mode de vie. Et puis peu à peu, je me suis surtout intéressée à la fabrication fromagère, et c'est plutôt par cette passion de la transformation d'une matière première noble qui est le lait qui m'a amenée peu à peu vers l'agriculture, et donc transformer son produit de A à Z.
Et niveau formation, beaucoup d'expérimentation, j'imagine.
Ah oui, moi je suis passionnée.
Une part entre tradition et expérimentation.
Vous avez totalement fait comment? Ouais. Vous avez vu mon site internet ou quoi?
Et pas du tout, justement, je ne suis pas dessus.
Parce qu'il est tout neuf, il a 3 jours, donc il faut taper normalement www.kitaria.fr. Et effectivement, j'ai détaillé tout à fait ce.
On va épeler le Kitaria pour que tout le monde s'y retrouve.
Alors, K-I-T-E-R-I-A. Kitaria.
Kitaria, tout simplement. K-I-T-E-R-I-A.fr.
C'est ça.
Il est
et on est tout à fait entre tradition et innovation. Par exemple, nous sommes l'une des rares fermes à encore procéder à la traite à la main.
Ah oui.
La traite des brebis à la main, qui était un savoir-faire ancestral, mais qui se perd parce que, au bout d'un certain temps, avec le nombre de brebis qu'on a, on se blesse les canaux carpiens aux mains.
Oui.
Et voilà, donc ça met fin à cette pratique qui est remplacée par la machine, le mécanisme. Et nous, on a apporté le côté innovation en ne triant qu'une fois par jour. Voilà, c'est une petite anecdote qui explique qu'on continue, on perpétue cette tradition tout en faisant attention au bien-être animal.
Oui, c'est voilà. Une traite par jour, ça permet quand même de refaire des ressources sans être complètement à sec, et du coup, ça permet aux animaux d'être.
Combien de brebis, Pauline, chez vous?
Une centaine, petit troupeau. Voilà.
Et comme tout à la main, toute seule?
Souvent la traite, on est deux. Voilà, en pleine période de production, quand elles sont au pic de lactation, c'est-à-dire à peu près un mois après avoir annulé, faire le petit. Voilà, on est souvent deux jusqu'au mois de mai, et ensuite la production baisse naturellement et on finit de traire jusqu'en août.
Ça veut dire que l'essentiel des ventes de fromage se fait directement sur l'exploitation à la ferme.
La vente se fait directement à la cabane. Donc il faut bien comprendre qu'on est transhumant, donc on produit 3 mois de l'année sur la ferme, et dès que l'herbe est disponible en haut, on monte,
vous
on transhume.
D'accord.
Et c'est à la cabane qu'on se rend disponible pour accueillir le public et pour vendre nos produits. Donc de mai à août, les gens peuvent venir à la cabane, c'est sur le plateau d'Irati à 1000 mètres d'altitude.
J'allais vous poser la question,
donc on prend de la hauteur. On se retrouve immergé dans la forêt de hêtres d'Irati, qui est quand même la plus grande d'Europe. Donc c'est un site assez touristique, mais très préservé aussi, où voilà, le tourisme cohabite quand même très bien avec cette activité de pastoralisme.
Et vous avez vous aussi des relations avec des restaurants, des chefs Des oui. passionnés de cuisine.
Oui, alors ça fait que 4 ans nous qu'on débute un petit peu l'activité fromagère, donc on n'a pas, on est un peu là la tête dans le guidon, on n'a pas eu trop
c'est
l'occasion
sûr.
De démarcher,
ouais,
mais on voit qu'avec les réseaux sociaux et le bouche à oreille, ce genre, les nouveaux restaurateurs qui ont aussi nos âges en fait, hein, la nouvelle génération de restaurateurs cherche à travailler en direct avec des produits du terroir, et donc on n'a pas de difficulté à se mettre en liaison et à travailler ensemble.
Jérémy, pour vous aussi, c'est une histoire familiale ?
Oui, moi c'est une exploitation familiale, ouais, je suis la cinquième génération.
Combien d'hectares sur l'exploitation ?
On a 6 hectares de vignes.
D'accord.
Voilà.
John, une question peut-être sur le vignoble ou sur le sur fromage le... ou sur les girons-sans, pas vraiment.
Je suis, ouais, je sais moins comment on fait du fromage. Je connais beaucoup plus le milieu du vin. Je suis dedans, j'y travaille dedans. Moi, je veux savoir ce que vous pensez de toute cette nouvelle mode des vins qui veulent être sans soufre du tout. Et nous, de là où je viens, il y en a plein, même sur les moelleux, sur les liquoreux. Pour vous, vous en pensez quoi?
Voilà, la fierté du vigneron, c'est de faire le meilleur vin avec le plus naturellement possible, sans ajout. L'objectif primordial du vigneron, c'est de faire le meilleur vin. Et s'il peut le faire sans ajout, c'est le mieux. Moi, je fais régulièrement des essais de vin. Le seul produit qu'on utilise, c'est des sulfites, en faible quantité, mais on en utilise. Et je fais régulièrement des essais sur des barriques où je ne mets rien du tout. Et ça me convient pas encore d'un point de vue gustatif, mais je pense qu'on y arrivera à terme. C'est plaisant de travailler ces vins le plus naturellement possible, sans ajout, sans intervenir. Et voilà, l'objectif final, c'est quand même de faire le vin qui nous plaise. Pour l'instant, j'ai pas réussi à être satisfait pleinement des vins sans sulfite. J'en mets le moins possible, et ça me convient très bien comme ça.
Et en rouge, vous travaillez avec quel cépage ?
En rouge, c'est un petit peu particulier. On a du tanat, c'est un cépage assez tannique du sud-ouest qu'on retrouve dans le Madiran. Ensuite, on a du mansin noir. On est conservatoire de ce cépage. C'est un vieux cépage qui avait disparu et qu'on a replanté parce qu'avec le réchauffement climatique, on a de plus en plus de vins qui dépassent les 14 voire 15 degrés. Et ce vieux cépage a des degrés d'alcool un petit peu plus faibles. Ensuite, on a planté du Marcelan, c'est un cépage du sud-est, et de l'Arinarnoa, c'est un cépage basque, comme quoi on n'est pas si raciste envers les Basques.
Voilà.
Donc voilà, c'est un assemblage un peu atypique qu'on vinifie en barrique et voilà, qui est plutôt puissant, plutôt pour accompagner des plats cuisinés que pour boire à l'apéritif.
Et justement, pardon, John.
Non, c'était ça allait, vas-y.
Ok, très bien. Donc on peut faire une transition justement sur le point pluie et beau temps. Cette année et ainsi que l'année dernière, on a eu pas mal de canicules en été. Comment ça se ressent sur les récoltes?
La canicule n'a pas fait énormément de dégâts. Par contre, au printemps, on a eu beaucoup de pluie et de la douceur. C'est un climat plutôt tropical. Donc il valait mieux planter des bananes ou des avocats que de la vigne. Malheureusement, c'était la vigne qui était installée. Quand on travaille en agriculture biologique, c'était pas évident à gérer. Mais on a réussi à récolter, à avoir une belle récolte quand même, de qualité. Ouais. En termes de quantité, on a perdu un petit peu parce que le mildiou, le champignon que vous connaissez sur vos tomates, il a aussi attaqué les vignes et a fait quelques dégâts sur les grappes.
Ah.
Mais en termes de qualité, c'est une bonne année malgré tout. La canicule n'a pas fait de dégâts, c'est plutôt le printemps humide qui a été impactant.
Ah, le mildiou, oui. Dans le Bordelais, le Bergerac, quoi, ils le savent. Hein. Tous les merlots sont, enfin, beaucoup de merlots, ils n'ont pas récolté.
Hein. Oui, voilà.
Et ça a attaqué directement la grappe cette année, ils n'ont pas prévenu, on ne l'a pas vu sur les feuilles.
Exactement.
Donc pas pu traiter à temps. Et justement, la canicule au niveau des brebis.
Oui,
parce que l'herbe.
Oui, tout à fait. Nous, on a un impact plutôt direct. Hein, donc, c'était pas cette année, mais l'an dernier. Nous, donc effectivement, on a manqué de ressources fourragères. À la ferme, c'est-à-dire que nous, la transhumance vers la montagne, c'est une nécessité. C'est-à-dire que pendant que les brebis packagent de l'herbe fraîche en haut, on a notre stock d'herbe en bas pour faire les fenaisons, pour anticiper le stock de fourrage d'hiver. Et donc, on n'a pas pu faire toutes les coupes de foin qui nous étaient nécessaires. Donc, voilà, forcément, on a dû acheter l'année suivante pour nourrir notre troupeau l'hiver.
Oui, mais quand il fait très chaud comme ça, il y a moins d'herbes aussi qui poussent, vu qu'elles crament. Les brebis avaient assez à manger dans les...
Oui,
les,
à la montagne. Voilà. Là, c'était notre grande force. Ceux qui transhument, ils ont quand même une herbe à la montagne. Il y a un autre climat. Et on a pu maintenir notre troupeau en bonne santé tout au long de l'été. Mais voilà, le fourrage en bas n'était pas présent.
Ah, manque à gagner. Surtout qu'il a augmenté. depuis
oui.
deux ans.
Ah oui, oui.
Sérieusement, tout a augmenté.
Mais cette année, on s'est rattrapé. Voilà. Bon, c'est ce qui me fait. J'ai plutôt confiance, moi, en la nature. Il y a des années avec et des années sans. Et bon, si on fait. Un recul sur 10 ans, normalement la roue tourne, et moi c'est ce qui me donne confiance aussi dans ce métier, c'est que c'est dur, on a beau bien travailler, on est quand même dépendant du climat, mais bon, il y a toujours une année quand même qui rattrape l'autre.
On vous retrouve à quel endroit ici sur les Gastronomades? On va rappeler.
Alors on est au stand, on n'est pas trop sûr avec Jérémy, mais 77 ou 76. En tout cas, c'est le domaine Laroudé et la ferme Pideria.
Exactement.
Et puis voilà, on saura vous arrêter et vous faire découvrir nos produits.
Mais
y a
on
pas de
vous
soucis.
Fait confiance. Voilà, on invite le plus grand nombre d'auditeurs à venir vous retrouver tout au long de ce samedi et également demain toute la journée. On va redonner, ça c'est important pour ceux qui sont avec le téléphone ou la tablette pas très loin, vos sites internet respectifs pour aller visiter vos boutiques et aller découvrir vos sites internet. Pauline, peut-être en premier?
Oui, alors www.kiteria.fr.
Parfait. Et pour vous, Jérémy?
www.domaine-laroudé.com.
Super, voilà. Et puis, ben, si on a l'occasion tout à l'heure, je crois qu'on a un petit projet de chanson locale. Donc, on pourra peut-être vous convier, voilà, si vous êtes disponible.
Oui, ici au comptoir, il n'y a pas de souci.
Bon, ça marche. Merci à vous, bonne gastronomade.
Merci à vous.